L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Bonjour à tous. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir M. Ayé Frédéric. M. Ayé, je vais vous présenter aux auditeurs.
D'accord. Donc, je m'appelle Frédéric Ayé, enseignant au lycée Jean Moulin de Béziers. Et j'appartiens aussi à la communauté ivoirienne, franco-ivoirienne. Voilà, donc ce matin, je suis venu participer à cette émission, l'Afrique dans tous ses états.
Ok. Bien, alors, maintenant que vous êtes présenté aux auditeurs, depuis quand, je dirais, vous êtes-vous à Montpellier? Et pourquoi Montpellier, d'ailleurs?
Oui, je choisis Montpellier parce que j'avais un peu de la famille, et donc, et puis aussi pour les climats qui est un peu plus sensible au climat de la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. Et donc, voilà, tous ces éléments-là qui m'ont persuadé de choisir Montpellier. D'accord. Et que aussi Montpellier, c'était une ville universitaire, donc pour me permettre de progresser dans mes études.
D'accord. Et depuis quand vous arrivez à Montpellier?
Je suis arrivé à Montpellier le 19 septembre 1991.
Ah, quelle précision.
Voilà.
Et vous aviez fait des études de quoi?
J'ai fait les études secondaires en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Et puis ensuite, un début à l'université de Côte d'Ivoire, dans les matières un peu informatiques et puis un peu informatiques. Et je suis venu ici pour faire les études de paramédical, donc technicien de laboratoire, que j'ai fait au CHU de Montpellier, belle vue au plan de l'État Seigneur. Et ensuite, j'ai fait 3-4 ans de formation, donc à l'issue de ce diplôme-là, et j'ai fait une passerelle pour rentrer à la fac Paul Valéry en licence sanitaire sociale.
D'accord.
Et après, donc, je fais une maîtrise, et un DSS, et j'ai fait un DA de santé de la géographie que j'ai pas terminé, et ensuite je suis rentré dans les remplacements dans l'enseignement au rectorat de Montpellier en 2001.
D'accord. Voilà. Donc, c'est bien un beau parcours quand même.
Oui, voilà. Et c'est après que, après ces remplacements, j'ai été titularisé au bout de 10 ans. Et depuis 2015, je suis au lycée Jean Moulin de Béziers, jusqu'à ce jour.
Jusqu'à ce jour.
Voilà.
Bon, alors, donc, vous enseignez le paramédical.
Oui, le paramédical, c'est une filière technologique en lycée, en lycée général et technologique. Et donc, j'ai des élèves de première jusqu'en BTS, SP3S ou ESF.
Voilà. Et vos élèves, ils finissent quoi après?
La plupart du temps, nos élèves de première terminale, quand ils ont le bac, la plupart sont destinés à faire l'IFSI, l'Institut de soins infirmiers. D'accord. Et d'autres élèves aussi peuvent choisir la filière, la voie sociale, c'est-à-dire assistant social, donc aller en formation à l'IRTS. C'est un institut de formation pour les travailleurs sociaux.
D'accord.
Voilà.
Ouais, mais c'est bien. Donc, effectivement, on voit bien que vous êtes bien inséré dans...
Oui, 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 oui.
Dans le milieu des enseignants. Vous participez avec votre enseignement à former les personnes soignantes dont on a besoin.
Oui, et puis on a j'ai eu aussi des élèves qui sont devenus par la suite des enseignants comme moi, qui enseignent dans ma filière. Ah ouais. Parce qu'il y a eu une possibilité d'aller aussi à la fac pour faire une licence, et puis après faire un master 1 et master 2 dans sciences d'éducation ou sciences sanitaires et sociales pour passer les concours d'enseignement.
D'accord.
Voilà.
Mais moi, je ne savais pas que ça pouvait s'apprendre au lycée, formation.
Oui, ça s'apprend au lycée.
Mais ça a toujours été comme ça ou
Oui, c'était ce qu'on appelait, l'ancienne génération, c'était ce qu'on appelait le bac F8. Après, c'est devenu SMS, et puis depuis 2012, c'est devenu ST2S, sciences techniques, santé sociale, jusqu'à ce jour. Et donc, ça forme tous ceux qui sont destinés à travailler avec le parapublic.
Puisque vous êtes enseignant là-bas, comment vous voyez ou vivez l'absence ou le manque récurrent de personnel soignant, des aides-soignants en général, enfin tout le corps médical, parce qu'ils en font des milliers quand même chaque année.
Oui, bon, dans certains corps de métier, il y a la pénibilité, et puis aussi, il faut dire aussi que en termes de rémunération, il faut quand même aussi dire que certains salaires n'incitent pas trop. Ah. Et voilà, ce qui fait que il y a ce métier-là manque de choses, alors que avec le processus du vieillissement, surtout dans les EHPAD, on a besoin de ces personnes-là. Donc ça fait que il y a certaines politiques qui sont menées. Il y a des progrès, mais c'est encore plus lent. Et puis bon, nous vivons une situation économique assez désastreuse. Et donc en termes de revendications salariales, ça pose des soucis. Donc bon, mais il y a des choses qui sont quand même faites, et donc les choses évoluent. Mais bon,
d'accord,
à un rythme pas de tortue, mais bon, il faut garder espoir.
D'accord. Et comment avez-vous vécu, vous et vos élèves, la crise du Covid, où effectivement, pendant deux ans, on a été mis sous cloche?
Oui, la crise du Covid, aujourd'hui, a encore quelques conséquences, hein, parce que aujourd'hui, la santé mentale, surtout des jeunes, de nos adolescents, a été touchée. Mmh. Et donc, il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup, souvent, d'idées noires, hein, un peu d'idées suicidaires, mais les choses sont quand même en train d'être prises au sérieux. Et puis, je pense que il y a des choses qui se font. Sur ce plan-là. Donc, on est attentif, et puis avec tous ces phénomènes-là d'harcèlement qu'on vit dans les établissements, mais il y a des mesures qui sont prises. Donc, nos chefs, nos autorités sont assez attentifs à ce problème-là.
La crise de Covid est venue s'ajouter à une crise qui était déjà latente depuis un moment,
par le manque de personnel. Oui. Et donc ça, on a senti que maintenant, après ce passage-là, bon, les gens ont commencé maintenant à comprendre un peu l'utilité d'être sur place, de travailler, parce que c'est vrai, cet enfermement-là a cassé un peu quand même quelquefois le rythme qui était d'abord même qui commençait à baisser, et ça a quand même freiné. Et petit à petit, on est en train de reprendre les choses en main.
Voilà. D'accord. Et si, par exemple, parce que les jeunes qui sont en terminale aujourd'hui, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire demain, si vous deviez les encourager, les amener vers les métiers que vous formez, que leur diriez-vous, par exemple?
Oui, il y a des salons, il y a des journées portes ouvertes, il y a tout ça. Donc, je pense qu'il faut aller aussi dans les CIO. Pour aller chercher des informations, et nous aussi en tant qu'enseignants au contact, on leur donne des informations, on leur donne des adresses pour qu'ils puissent essayer de s'orienter. Et puis aujourd'hui avec Parcoursup, ils ont une palette de formations, et on leur donne les sites là pour aller piocher dedans, pour aller voir. Mais sinon, on a des séances, on a des heures pour voilà. Et puis surtout, on leur dit de faire des sorties, d'aller dans les salons de l'étudiant, ou dans les salons, dans les portes ouvertes des lycées, pour voir ce qui se fait dans les établissements. Parce qu'il y a des formations qui sont un peu spéciales dans d'autres établissements.
Parce qu'au regard de votre parcours, depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que vous faites aujourd'hui, c'est un parcours qui, pour les jeunes élèves en terminale, on m'a dit que c'est pas très. On n'était pas prédestiné à ça.
Moi, ma formation, d'abord, je voulais être technicien de laboratoire. Donc, j'ai eu le diplôme. Mm-hmm. Et puis après, je me suis dit, bon, mais écoute, sinon, ma première vocation même, je voulais être enseignant.
D'accord.
De mathématiques depuis le collège. Voilà, parce que j'étais bon élève en mathématiques. Et puis après, ça ne s'est pas fait. Et donc, une fois que je suis arrivé ici, c'est pas si c'est mon téléphone.
Non, non.
Ah bon. Une fois que je suis arrivé ici, j'ai vu que, je me suis dit, bon, tiens, j'ai la possibilité de me former, j'ai la possibilité de continuer mes études, donc j'ai pu avoir cette passerelle-là pour aller à la fac, mm-hmm. pour faire cette formation-là, qui était destinée à l'enseignement, parce que c'est ce que je voulais faire. Mm-hmm. Donc, voilà. Donc c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit aux élèves, on peut avoir un projet. Ensuite, si on n'a plus ce projet-là, on n'a pas les compétences pour aboutir à ce projet, on peut rebondir. Et donc il faut s'intéresser un peu à tout et donc ne pas se décourager surtout et se remettre au travail. Et puis chercher les bonnes adresses pour pouvoir s'informer et œuvrer dans ce sens-là.
Ouais. C'est quoi les effectifs de vos élèves en classe? Vous êtes combien en général?
En classe, l'effectif, nous sommes en première, nous tournons autour de 32-33.
Autour de 33.
33. Ouais. Et en terminale, on est dans 28-30.
Voilà. C'est constant, c'est le chiffre constant.
Oui, oui, c'est comme ça. Voilà. Parce que c'est vrai, souvent les élèves, certains disent, ah, quand je leur dis que nous, moi, par rapport, je donne un peu mon expérience de Côte d'Ivoire, j'ai dit quand on était en 6e ou 5e, on était plus de 50 et quelques dans la classe. Voilà. Alors, c'est pas les mêmes contextes, mais je dis pas là que si. Qu'on soit même 30, si on veut vraiment faire du travail, du bon travail, on peut le faire. Voilà, il suffit c'est d'être discipliné, d'être à l'écoute, d'avoir une certaine appétence au travail. Voilà, c'est ça. Mais sinon, les effectifs, moi, je trouve qu'à 30, on peut travailler 30 en terminale et puis 32, 33 en première, on peut travailler. Mais le premier critère pour moi, c'est la motivation. Savoir pourquoi on a choisi cette filière. Ouais. Surtout que ce sont des filières où c'est destiné à travailler, à avoir un métier au bout. Voilà, c'est donc la motivation doit être vraiment au rendez-vous.
Donc il n'y a pas de chômage quand ils sortent.
Oui, oui, ceux qui vont jusqu'au bout, voilà. Et puis, maintenant, ceux qui sont dans ces filières et qui savent maintenant qu'ils ont la compétence possible, ils peuvent devenir, comme j'ai dit tout à l'heure, des enseignants, ils peuvent faire autre chose. Pas forcément aller être infirmière ou bien assistant social, mais c'est pas des métiers que je déteste, mais que je néglige ou bien je méprise. Mais si on a la capacité de faire autre chose, on peut poursuivre. On ne s'arrête pas de progresser.
Ouais. Mais dans votre métier d'enseignant, s'il y avait des difficultés, ce seraient lesquelles? Sur lesquels vous allez mettre en évidence.
Difficulté pour quoi? Pour l'enseignant?
Oui, pour l'enseigner, par rapport au contexte actuel.
Bon, les difficultés pour l'enseignant, c'est peut-être qu'il n'arrive pas à s'adapter, surtout premier grief, des choses, c'est au niveau de l'affectation. Si vous êtes dans une ville où vous êtes muté, par exemple, pour les jeunes qu'on amène à Paris, ou bien comme ça, c'est pas tellement évident. Mm-hmm. C'est pas évident. Et là, ça pose quelquefois des petits soucis. Mais sinon, à part ça, pour le travail, les conditions, être à l'écoute, si nos chefs sont à nos écoutes, et ça, c'est la plupart des établissements, bon, il y a une bonne collaboration entre les enseignants et leur hiérarchie.
Voilà. Ouais. Du coup, si imaginons que des gens seraient intéressés, ou des jeunes élèves seraient intéressés par faire votre métier plus tard, enseignant.
Oui. Oui.
Que leur diriez-vous? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent pour être des bons enseignants?
Oui, oui, souvent certains qui peut-être veulent emprunter ce chemin-là me posent des questions. Et moi, je leur dis d'abord, il faut aimer les gens. Ça, c'est il faut aimer les gens. Donc, ce métier-là, on ne vient pas parce qu'on a échoué ailleurs, comme nous, parce qu'on se sent incapable de faire autre chose. Voilà. Mais il faut l'aimer. Et il y a aussi quand même être dans l'écoute, la patience, surtout la patience, et toujours chercher à performer.
D'accord.
On ne faut pas dormir sur ses lauriers. Parce qu'un enseignant qui ne se forme pas, qui ne se performe pas, il devient caduque. Et en ce moment-là, mais ses enseignements ne portent plus, et puis il n'y a plus d'écoute, et alors il va céder au découragement. Parce que les élèves vont se désintéresser. la motivation ne sera pas. D'accord. Mais il faut toujours se remettre en cause, toujours chercher à progresser. Voilà. Et donc, je leur dis d'être, de continuer à travailler, d'être patient et d'être toujours disponible. L'enseignant doit être toujours disponible et être à l'écoute pour de l'élève, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. Il ne faut pas être ici dans une forme de d'intolérance. Mais il faut pouvoir comprendre ce qui ne fonctionne pas et essayer de se remettre en cause pour pouvoir progresser. Donc voilà, la patience et surtout la motivation.
D'accord. Bon, on va marquer une petite pause musicale et on reprendra l'échange un peu plus tard. Bon. Merci.
Pour percer tes rêves d'enfant, ensemble on est devenus grands. De bons points en double zéro, paralysés par tant d'amour, on s'apprivoise au jour le jour. Gestes qui pouvaient soigner tes blessures, guider tes pas vers le futur. À tous les signaux de détresse, dis comment j'aurais pu faire face. Pris entre le feu et la glace, au-delà de nos différences.
Alors nous revoilà après cette petite pause musicale avec notre invité, M. Aye Frédéric. Alors M. Aye, vous nous avez parlé de votre métier, de comment vous êtes arrivé, de la passion avec laquelle vous transmettez à vos, à vos élèves cette envie d'apprendre, et parce que le secteur dans lequel vous êtes, il y a une forte demande. Donc vous parlez de vocation quasiment. Et je me disais aussi, pour quelqu'un qui est si ancré dans son métier, est-ce que cette personne n'aurait pas d'autres centres d'intérêt ? Parce qu'il faut bien sûr recharger ses batteries pour continuer à être performant. Ce serait lesquels vos centres d'intérêt ?
Vous savez que l'homme a deux jambes. Ouais. Et donc, il faut, pour qu'il y ait un équilibre, il faut, en dehors du travail, il faut avoir d'autres centres d'intérêt. Et c'est ça qui fait je peux dire, qui rend l'individu complètement complet. Et donc, mes centres d'intérêt, je me suis toujours passionné pour tout ce qui est le social, c'est-à-dire les associations, c'est-à-dire l'entraide. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Ensuite, je me suis aussi intéressé un peu à tout ce qui est activité syndicale et aussi tout ce qui est un peu activité politique, puisque comprendre un peu comment fonctionnent les choses dans le pays dans lequel je suis. D'accord. Et comme dans mes cours, je suis obligé, à mon programme le demande, de parler de tout ce qui est politique sociale et tout ce qui est politique sanitaire. Donc, je dois m'intéresser à ces choses-là. Voilà.
D'accord.
Et ensuite, j'ai aussi des loisirs. Les loisirs, j'aime aller avec des amis écouter de la musique. J'aime aussi faire des loisirs. Les loisirs, c'est un peu, quelquefois, le foot, mais je le fais un peu moins. Mais sinon, je fais la randonnée de temps en temps quand je peux. Voilà. Tout ça, ça me permet d'évacuer. Tout ça, ça me permet de voir d'autres milieux. Et puis, je peux aussi aller écouter soit des conférences ou aller assister à des pièces de théâtre. Voilà.
D'accord.
Le cinéma, je dis pas que je suis réticent, mais je suis un peu imperméable. J'arrive pas.
Ça passe pas.
Voilà. J'ai des amis qui, pour vous dire une chose, une anecdote, le film Gazon maudit, avec quelques années, pour le voir entièrement, j'étais obligé d'aller au cinéma 4 fois.
Ah ouais?
Ouais. Parce que à chaque fois que je partais, il y a des extraits que je voyais pas, des passages entiers que je voyais pas du tout. Parce que je dormais.
Ah ouais.
Voilà, donc maintenant j'ai dit à mes amis, à peine perdu, c'est pas la peine de me proposer ou de m'inviter au cinéma. Voilà.
Ok, donc on va prendre un peu un par un les activités sociales. On va parler de militer dans le social, ce serait lequel comme association?
Bon,
c'est peut-être l'occasion d'en parler.
Oui, donc pour cela, c'est parce que depuis le début de ma présence ici à Montpellier, quand j'ai su qu'il y avait une association des Ivoiriens, à Montpellier, j'ai été simplement simple adhérent de temps en temps, et puis depuis 2002, avec la mise en place de MIA, donc Montpellier Ivoire Association, j'ai été constamment dans tous les bureaux jusqu'à ce jour, et donc voilà un peu ma participation donc à toutes les activités avec les différents présidents qui se sont succédés depuis 2002 jusqu'à ce jour.
D'accord.
Voilà. Ça c'est sur l'association. Et ensuite, ma femme est adhérente à l'association des Espoirs pour un enfant. Donc voilà. Et quand il y a des manifestations, on y va de temps en temps. Donc voilà. C'est pour voir un peu comment ça se fait. Et puis voilà. Quand on est par mes activités au sein du MIA, quand il y a des autres associations africaines ou même font des activités, je vais pour voir ou bien représenter l'association MIA.
D'accord. Voilà. Est-ce que MIA, votre association, aurait une activité ces jours-ci?
La prochaine activité, c'est dans quelques jours, c'est samedi prochain, pour être plus précis, le 7 décembre, à l'espace Pitot, et où il y aura un souris et un enfant qui était l'ancienne qui a remplacé ce qu'on appelait autrefois l'Arbre de Noël, que organisait l'association. Et depuis la présidence de notre notre présidente Blandine Achaud, nous avons maintenant changé pour dire maintenant que ça s'appelle un sourire, un enfant, un sourire. Et donc c'est le 7 décembre à l'espace Pitot, à Montpellier. D'accord. Voilà.
Voilà, donc. Bon. Donc si je vois bien, vous êtes dans le plan professionnel, vous êtes dans le social, sur le plan associatif aussi, vous êtes dans le social. Donc vous baignez dans le social.
Oui, voilà.
Est-ce que ça vous vient d'où tout ça? C'est familial?
Je pense qu'il y a un peu de ça, puisque je suis profondément croyant. Et que donc mes parents sont très croyants et donc la question religieuse m'a imprégné. Et donc c'est cela que aller vers l'autre m'a toujours intéressé, d'être toujours disponible pour aider si je peux, voilà. Et aussi comme je le dis, le bon Dieu me le rend aussi. J'ai pour tout dire. Tout mon séjour à Montpellier ou même en Europe, j'ai pas eu de trop grands problèmes. Je peux m'avancer que j'ai pas subi de problèmes de racisme, de discrimination, que ça soit au niveau personnel, c'est-à-dire pas dans mes activités professionnelles, et même dans mes activités professionnelles, pour partout, dans tous les départements où je suis passé, j'ai eu un accueil. Et peut-être que c'est du fait que je suis assez humble. Voilà.
Mais c'est une qualité louable.
Voilà, je suis assez humble. Donc, ouais. Et j'ai dit toujours aux gens que quand on est modeste et on est respectueux, toutes les portes peuvent vous ouvrir.
D'accord.
Voilà. Donc ça pour l'instant, c'est ce que j'essaie de faire. Donc voilà. Donc j'ai toujours baigné, comme vous dites, dans le social. Et c'est ce que j'ai toujours retenu de mes parents. Voilà.
Donc c'est un legs de vos parents qui vient de si loin. Voilà. Peut-être que vous allez le transmettre aussi à vos descendants.
Oui, voilà.
Et puis c'est ça la marque des Haïés, si on peut ainsi dire.
Non, mais c'est ça, c'est ça. Et les gens, tout le monde le reconnaît, les amis, vous êtes toujours disponible. Voilà. Même. Quel que soit, vous n'êtes pas contraignant. J'ai dit oui. J'ai dit si quelqu'un vient vers moi, c'est parce que derrière lui, il y a quelqu'un qui l'a emmené. C'est le bon Dieu. Il y a un Seigneur. Voilà.
D'accord. Bon. Là, l'émission tire à sa fin.
D'accord.
S'il y avait quelque chose que vous voulez dire personnellement, c'est peut-être l'occasion.
Moi, ce que je peux, je retiens d'abord, merci de votre invitation. Merci. Et puis, c'est l'occasion de dire que il ne faut pas se décourager. Comme on l'a dit, découragement n'est pas ivoirien, comme l'a dit notre premier président ivoirien. Il faut toujours, quelles que soient les difficultés, il y aura des solutions. Donc, restons dans l'optimisme, mais le travail, rien que le travail. Il faut essayer de s'éloigner de ceux qui sont toujours à être dans l'accusation. Il faut s'éloigner de tous ceux qui ne veulent pas qu'il faut faire d'abord son autocritique pour pouvoir avancer. Dire que s'il y a des difficultés, c'est la faute de l'autre, je pense que c'est un peu facile. Donc, c'est ce que je peux retenir, c'est de conseiller à la jeunesse et à la nouvelle génération le travail, le respect et l'humilité.
Bon, ben écoutez, sur ces mots, notre échange prend fin. Merci à M. Frédéric Rayet d'être passé nous voir. Et on va terminer l'émission avec le second morceau que vous avez choisi.
Voilà. Merci.
Merci, au revoir, à bientôt.
À bientôt.
Derrière des barreaux, pour quelques mots, c'est si fort. Dehors, il fait chaud. Des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Et déjà mort.